aucun moyen de décrire une chose que les autres n'ont pas vue. On ne peut décrire que ce que l'autre connaît. Et on avait parlé en art, en littérature, de ce que l'autre connaît. Donc de cette chose qui est commune à nous tous, comme ça. Et chacun va, à partir de ce petit stimulus, retrouver une impression qui lui est profonde et qui lui est propre. C'est-à-dire que si, par exemple, je désigne un enfant courant sur une plage, chacun va voir forcément une autre plage et un autre enfant. Cette image commune qu'il va reconnaître et qui va, chacun va la voir de manière différente, va lui permettre de ressentir quelque chose qu'il avait oublié, peut-être.
Il joue avec le noir, la mémoire, le monumental, l'infiniment petit. Il nous fait entrer dans sa grotte où l'attrait et la peur nous font chavirer. Ce soir, Christian Boltanski numéro 2, à l'occasion de sa rétrospective intitulée « Faire son temps » qui va commencer bientôt au Centre Pompidou. Mais comme chaque soir, on va commencer en musique avec « Haute » de Louise Bourgeois.
C'est ça. La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote.
C'est ça.
Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, puis elle boursicote. Il cuisine, et puis elle popote.
C'est ça.
Il découvre, par exemple, il découvre un vaccin. Il découvre et elle dégote.
C'est ça.
Il parle, elle parlote. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors quand il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle, et puis elle sifflote. Et alors on entend le merle qui siffle dans les arbres, elle sifflote.
C'est ça.
J'ai dit, je vous répète, il vit, elle vivote. Sans dot. Elle se fagote et se chapote et sa culotte comme une cocotte. Charlotte l'idiote, elle vivote. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas? Et puis elle touchote. Ça n'a aucun effet. Ouhou.
C'est ça.
Ouhou. Ouhou.
C'est ça.
La femme de l'amigo est une amigotte. La femme de l'anglot est une anglotte. La chamotte est la femme du chameau.
C'est ça.
La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou.
C'est ça.
Ouhou.
C'est ça.
Ouhou.
C'est ça.
Ouhou. Ouhou.
C'est ça. C'est ça.
Ouhou.
C'est ça.
Ouhou. Ouhou. Tout ça. Tout ça, tout ça. Ouhou.
Alors la précision est importante pour votre œuvre, Christian Boltanski, vous la disposez avec de multiples moyens, notamment les éclairages, les lumières, tout le monde connaît vos œuvres avec les ampoules, les petites lumières, l'obscurité, etc., etc. L'histoire des ombres chinoises que vous avez construites et que vous avez installées dans de nombreux lieux dans le monde entier. On est dans votre atelier, grâce à vous, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, et vous, moi je vois un portrait en couleur d'une petite fille. C'est vous qui avez fait ça? Ça ressemble pas du Boltanski.
C'est un enfant de Waron. J'ai eu une activité à Waron. À Waron, il y a un château qui est un centre d'art, et c'était des amis qui s'occupaient de ce lieu, et j'y ai fait une œuvre très grande à l'entrée. Et j'étais le photographe scolaire du village à côté. Et donc chaque année, j'allais photographier les enfants de ce village. Et là, ce qui m'amusait, c'est qu'il y avait deux exemplaires qui étaient faits. Un exemplaire qui était vendu aux parents pour une somme très très petite et qui avait une valeur d'usage. C'est-à-dire qu'on envoyait ça au grand-père qui était loin. Et puis, la même photo était mise dans le château à l'entrée, un peu comme dans ces châteaux Renaissance où il y a les portraits de tous les princes. Et donc, voilà, donc cette petite fille est une petite fille de Waron. Mais si vous approchez, vous verrez que l'image est totalement percée. D'abord que la couleur est pratiquement partie et que l'image est percée parce qu'aujourd'hui, elle doit avoir 30 ou 35 ans et qu'elle n'est plus là. Elle n'existe plus telle que nous la voyons là. J'espère qu'elle existe, mais nous ne la voyons plus telle qu'elle est là. Et donc, c'est comme une sorte de vague souvenir des... Il y a très longtemps de ça, j'avais fait une pièce qui m'amusait, une œuvre qui m'amusait. C'était des photographies qui étaient mal fixées et qui étaient dans des grandes boîtes de métal. Et à chaque fois qu'on ouvrait la boîte pour le regarder, la photographie noircissait. Et donc la photographie avait à peu près 2 heures de vie avant d'être totalement noire. Et donc, je me disais, la personne qui a ça, il va se dire aujourd'hui, ah, j'ai très envie, je vais perdre 3 minutes, je vais la regarder pendant 3 minutes. Ah, ça me fait plaisir de la regarder pendant 3 minutes. Mais il savait que ces 3 minutes, il mange la vie de l'image. J'avais fait cette pièce à cause des amateurs de vin. Parce que c'est toujours une chose très étrange, les collectionneurs de vin, parce que ils ont des très très bonnes bouteilles, mais tant qu'ils ne l'ont pas bu, elle n'est rien. Et une fois qu'ils l'ont bu, elle n'est plus rien. Et donc, évidemment, c'est cette vieille tradition de regarder une image et qu'elle disparaît. Et donc là, ces images dans les boîtes étaient effectivement... je crois que la pièce se trouve au musée de Vienne. Et aujourd'hui, plus personne ne doit ouvrir les boîtes, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'elle a pu devenir. Mais il y avait cette idée comme ça de l'usure. Et donc là, c'est un peu pareil. Il y a une sorte pour cette petite fille de Waron... Il y a une sorte d'usure du temps où c'est sur le point de disparaître.
Et là, sur un des murs de votre atelier, il y a des grands formats qui sont retournés face au mur. On ne voit que du scotch et du papier carton. Vous avez déjà peint? C'est des peintures?
J'ai fait beaucoup, beaucoup de tableaux. D'ailleurs, dans l'exposition de Pompidou, il y aura un tableau que j'ai fait, je crois, en... 66 ou 67, et qui a été acheté par l'État à ce moment-là. Et donc, ils ont retrouvé ce tableau. Et donc, j'ai peint des centaines de tableaux qui, heureusement, sont à 98% détruits, ou même plus, peut-être à 99,5% détruits. Il reste celui-là, et moi, j'en ai deux, mais qui sont plutôt moches. Je suis pas sûr que j'étais un très, très bon peintre. Pour parler du hasard et des choses étranges. Donc je fais tous ces tableaux. Et à un moment, je voulais faire des films. J'avais cette envie de faire des petits films. Et donc, je savais pas comment faire. Et quelqu'un m'a dit qu'il y a un type très gentil qui dirige le cinéma Le Ranelagh, qui aide les jeunes cinéastes. Donc, gentiment, parce qu'on avait une relation commune, il vient me voir. Et puis, il me dit, non, je veux pas vous aider pour faire des films, vous en êtes pas capable, mais vos tableaux m'intéressent, vous pouvez les exposer dans le hall du Ranelagh. Donc, je fais une exposition, c'était en... le 3 mai 68.
Donc c'est ma première expo, j'étais enchanté. Ça s'appelle La vie impossible de Christian Boltanski. Donc c'était vraiment, quand on est très jeune, vous voyez, j'avais 23 ans, c'était important pour moi. Et puis naturellement, tout le monde arrive, enfin, mes copains arrivent au vernissage. Ils disent, mais il y a la révolution. Je dis, mais vous me faites chier, c'est pas le jour. Demain, si vous voulez, mais aujourd'hui, c'est mon exposition. Et puis, la révolution a tout même eu lieu. Et par hasard, le cinéma, le Ranelagh, est devenu le lieu de réunion des grévistes de l'ORTF. Et là, il y avait une femme qui était une journaliste de l'ORTF qui est venue et dont le mari, qui est moi maintenant, était un des futurs directeurs de Beaubourg. Et elle lui a dit, il y a un truc extraordinaire, là, il faut que tu viennes et tout ça. Et il a acheté une œuvre pour Beaubourg. C'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Comme quoi, je dois beaucoup à mai 68 et comme quoi, d'une chose qui paraissait très négative, finalement, ça a été positif pour moi parce que ça a été vu par des gens beaucoup plus intéressants que ceux qui seraient venus normalement.
Donc, et tous les autres, c'est la chance, c'est la comme chance. Vous dites, et ou le hasard.
Et tous les autres tableaux, je peignais dans le grenier de chez mes parents. Et puis un jour, mon frère a repris cet endroit pour ses enfants. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait de tous ces tableaux? Ce que je peignais sur contreplaqué. Des énormes panneaux de contreplaqué de 2 mètres sur 3, des choses comme un énorme truc. Au téléphone, je lui ai dit, tu les casses en deux et tu les mets à la poubelle. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a détruit pratiquement tous les tableaux. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit, écoutez, je crois que j'ai un tableau de vous. Et c'était un collectionneur, je veux le voir. Et j'ai retrouvé un de mes tableaux qui était restauré de manière très bien. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il avait été cassé en deux, mais très très bien restauré. Et quand on est très jeune, on signe, ce que je fais plus jamais depuis ce temps-là. Et donc j'avais signé, et le type, quelqu'un avait dû lui vendre ça. Et donc je lui ai dit, oui, c'est bien un tableau de moi. Et il y en a quelques-uns qui errent dans la nature. Le musée de la ville de Paris, on a exposé un récemment, je sais pas d'où ils l'ont trouvé.
Dans les poubelles ou dans les rues la nuit.
Voilà. Donc il y en a que ça. Parfois je me dis que c'est mon frère qui a raison de jeter tout ça. C'est déjà lourd d'avoir toute une œuvre. En tout cas là ça commence par ça. Ça commence par ce tableau.
Et ça commence par la peinture donc.
Là, ça commence par la peinture. Mais vous savez, je dis toujours que je suis peintre. Parce que, d'abord, ça fait chier le monde, et puis parce que...
Pourquoi ? Parce que les peintres ne sont plus à la mode, tandis que les artistes qui font des installations sont très à la mode.
Les peintres sont beaucoup plus à la mode que aujourd'hui. Les peintres, tant mieux. Et la peinture ne sera jamais terminée. J'adore la peinture, il y a toujours des peintres extraordinaires et tout ça. Mais la peinture est plus... Bon, se vend mieux, ça, sans aucun doute. Ce que je disais avant la peinture. Et aussi parce que, pour moi, il y a une grande coupure entre les arts du temps et les arts de l'espace. Et qu'en fait, c'est pas le moyen qui est important, c'est savoir si on se situe à l'intérieur de l'art du temps ou de l'art de l'espace. Alors, si vous prenez une vidéo, la vidéo peut être un art du temps si les gens sont assis, qu'il y a un début et une fin de votre vidéo. Et donc là, c'est un art du temps, comme le cinéma. Si par contre, comme fait par exemple Douglas Gordon, la vidéo est projetée au milieu d'une salle, qu'on peut rester le temps qu'on veut et qu'on tourne autour, ça devient de la peinture.
On s'allonge.
Ça devient de la peinture parce qu'il n'y a pas l'idée d'un début et d'une fin. Et donc, le moyen n'a pas tellement d'importance. Ce qui est plutôt important, c'est de savoir si on se situe à l'intérieur de l'espace ou à l'intérieur du temps. Alors moi, aujourd'hui, je tâche dans mes expositions d'être un tout petit peu à l'intérieur du temps. C'est-à-dire qu'il y a en principe un début et une fin. Naturellement, je ne peux pas savoir le temps où les gens vont rester dans la première salle ou dans la deuxième salle, mais il y a tout de même un cheminement. Et je tâche qu'il y ait un cheminement. Et dans cette exposition, ça commence par départ et ça finit par arriver. Donc il y a un cheminement. Enfin, c'est écrit départ et c'est écrit arriver. Il y a une promenade.
Vous avez l'impression que le temps vous est compté, Christian Boltanski ?
Forcément, oui. Je ne peux pas prévoir. Alors, vous savez, j'ai des expositions jusqu'en 2024. C'est parce que j'avais un oncle comme ça, il disait, mais je peux pas mourir la semaine prochaine parce que lundi j'ai un déjeuner, mardi je dois avoir un tel, mercredi j'ai ce rendez-vous très important avec mon notaire, je ne peux pas mourir. Et donc moi c'est un peu la même chose, donc je me donne des expositions, des projets dans l'avenir, simplement comme une sorte ne pas aller au Landbaton, j'y vais pas. En 2024, je veux pas les décevoir en m'attendant à Landbator. Donc on se donne des sortes de rendez-vous avec le futur qu'on sait qu'on tiendra pas. Je sais plus qui me disait, je crois que c'était Foucault qui, quand il a su qu'il était très mal, avait accepté des centaines de conférences partout dans le monde. Et je pense que c'est se donner presque une sorte d'obligation morale de les tenir. Donc effectivement, il est très difficile de faire des projets à mon âge.
Ben, vous continuez à faire beaucoup de projets, vous continuez à exposer partout dans le monde entier. Et l'intitulé de cette exposition au Centre Pompidou est indicatif de quoi alors? Pourquoi vous avez donné ce titre-là?
Faire son temps. J'aime bien les noms d'expositions qui sont ambiguës. L'exposition du Grand Palais, par exemple, s'appelait Personne, qui a deux sens, c'est personne et beaucoup de monde. À Venise, c'était chance, c'est-à-dire le hasard en anglais, la chance. Donc c'est des noms qui sont un peu, qu'on peut prendre de manière différente. Et faire son temps m'intéressait parce que je pense que chacun de nous faisons notre temps. En vivant, nous faisons notre temps. Et en même temps, j'ai fait mon temps. Donc on pourra dire, ah oui, il a vraiment fait son temps, c'est vraiment dépassé. Donc il y a une sorte d'ambiguïté comme ça, de fabrication de son temps, et que ça y est, c'est passé, on a fait son temps.
Mais vous le ressentez, ça?
Que j'ai fait mon temps?
Oui.
Ah, j'ai fabriqué mon temps, oui, ça je pense.
Oui, dans le sens où il y a un jour, il faudra arrêter.
Ah non, arrêter, il n'y a pas beaucoup de retraite pour les artistes, il n'y a pas beaucoup de sens de cette retraite, c'est-à-dire que... Non, il y a des évolutions, mais il n'y a pas de... Et puis il y a une sorte de recherche individuelle qui est toujours là, je veux dire, mais qui est qu'on expose pas. Enfin, ça n'a pas de...
Oui, on ne montre pas tout ce qu'on fait.
On ne montre pas surtout tout ce qu'on pense. Moi, je ne fais pas grand-chose, mais on ne montre pas tout ce qu'on pense.
Ce que vous faites comme artiste, c'est de la pensée ou c'est des choses à regarder?
Ce que j'essaye de faire, c'est des petites paraboles qui ont des questions, mais pas de réponses, comme je le disais. Et au lieu d'employer des mots, comme nous faisons là, j'emploie des images ou des sensations. Et ces images et sensations, qui sont pour moi plus intéressantes parce que plus larges, plus incompréhensibles, peut-être, et en même temps compréhensibles d'une manière différente par chacun, je les fais avec, pas avec des mots. En ça, ces questions sont posées avec d'autres moyens, et avec des moyens, comme on dit, visuels, plutôt que par le langage. Là-dessus, les questions que je pose, je pense que si j'étais né en Amazonie, j'aurais été chaman, et si j'étais né au XIXe siècle en Ukraine, j'aurais été rabbin, et que mes pensées n'auraient pas été très très différentes, mais le mode d'exprimer mes pensées aurait été différent. Peut-être que j'avais été chaman, ça aurait été par des danses, peut-être que j'avais été rabbin, ça aurait été par des mots, mais finalement, c'est à peu près la même chose.
Donc vous avez un don.
Alors, c'est une chose compliquée. J'ai le fait, comme tout humain, d'essayer de comprendre. Et ça, c'est tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a, sans critère du tout de qualité des humains, des gens qui sont plus spécialisés dans un domaine, mentalement. Par exemple, j'ai un frère qui est plus intelligent que moi, qui a beaucoup plus lu que moi, mais visuellement, il ne sait pas bien placer les choses visuellement. Et moi, je sais bien placer les choses visuellement. Enfin, je crois. Et quand j'étais professeur la plus grande partie de ma vie, et de temps en temps, je voyais quelqu'un qui savait faire ça, qui savait placer deux objets, et que ces deux objets avaient une harmonie entre elles. Oui, mais ce n'était pas forcément les plus intéressants, les plus intelligents. Des gens, ils savaient faire ça. C'est comme, je pense, qu'il y a des gens qui sont en esprit qui est plus proche des mathématiques, ou d'autres d'un autre domaine, ou de la musique. Mais je pense qu'effectivement, c'est très difficile à définir, mais l'esprit humain est plutôt lié à un domaine qu'à un autre. Il semble, alors c'est aussi mon histoire, c'est-à-dire que même si je parle beaucoup là, enfin je parlais à peine, mais j'étais presque retardé mental, enfin j'étais vraiment... Et donc peut-être que le fait de pouvoir m'exprimer par des dessins, parce qu'au début ça a commencé par des dessins, était une manière pour moi de ne pas passer par le langage pour pouvoir parler puisque je pouvais pas parler. Et je pense que c'est souvent comme ça par les artistes outsiders que j'aime beaucoup, qui ont une grande influence sur moi et qui eux s'expriment par des images parce que le langage leur est difficile ou interdit. Et donc effectivement, sans doute qu'on a cette spécificité d'être plutôt lié à un domaine qu'à un autre domaine. C'est vrai que je pense beaucoup par rapport aux espaces, par rapport aux espaces, par rapport aux images. Vous savez, je dis toujours qu'il y a 5 sujets en art, mais qui sont la recherche de Dieu, le sexe, la beauté de la nature, et pourquoi nous mourons, etc. Bon. Mais d'une manière générale, en philosophie, ou simplement d'une manière humaine, il y a extrêmement peu de sujets de pensée. Et c'est toujours les mêmes sujets de pensée qui reviennent. Effectivement, il n'y a pas l'idée de progrès en art est la chose la plus stupide qui soit. Il y a peut-être un progrès en science, et moi j'en doute, mais il n'y a pas de progrès en art. Et c'est toujours les mêmes sujets dont on reparle. Alors, on n'emploie pas les mêmes mots. Si vous prenez par exemple la jalousie, elle ne s'exprime pas pareil chez Racine ou aujourd'hui. Mais le sentiment de la jalousie est le même, mais pas forcément exprimé de la même manière, pas par les mêmes mots. Le sentiment reste, mais les mots sont différents. Et moi, je ne me considère pas du tout comme un artiste moderne. Je suis contemporain parce que je vis aujourd'hui, mais je ne suis pas un artiste moderne. Les sujets qui m'intéressent sont des sujets qui sont extrêmement anciens, mais j'utilise les mots d'aujourd'hui, qui sont la vidéo, l'ordinateur, la photographie. Mais là-dessus, ça ne change rien. Pour moi, ça ne change rien. Et je suis beaucoup plus proche d'un peintre du XVe siècle que de quelque chose d'autre. Parce que, voilà, je me pose exactement les mêmes questions, mais évidemment, j'emploie des moyens un peu différents. Donc, je crois peu, de manière générale, je crois pas beaucoup au changement. Je crois beaucoup au changement qui nous entoure, mais au changement profond, la peur de mourir ne change guère. Et donc, je pense qu'en gros, que les questions qui se posent sont toujours plus ou moins les mêmes.
Quelle est la part d'abandon ou la part de maîtrise intellectuelle dans votre processus de création?
Vous savez, moi, je passe ma vie couché sur un lit à regarder la télévision. Et les émissions les plus stupides que je puisse trouver en muet. C'est en gros, je ne fais rien. Et je pense que pour moi, pour pouvoir arriver à travailler, il faut arriver à une sorte de très très grand vide, de très grande inquiétude. Et puis parfois, on a l'impression qu'on trouve quelque chose, qu'on a l'impression qu'on a compris quelque chose. Et puis sinon, parfois on s'aperçoit que c'était faux, qu'on n'a rien trouvé du tout, mais qu'il faut arriver à cette vacuité. Alors le problème pour moi, c'est que ne rien faire est tellement dur, c'est tellement compliqué de ne rien faire, que je sais que c'est la seule chose à faire, c'est de ne rien faire, mais que j'ai pas le courage de ne rien faire. Et donc, je fais des voyages, je fais des expositions, je m'agite, je dis c'est très important d'aller demain à Francfort, je dois me lever à 6h du matin. Je sais que c'est tout ça totalement inutile et totalement contre moi-même. Mais en même temps, c'est plus facile. Quand j'étais professeur, pour déprimer mes étudiants, je leur disais que toute l'école des beaux-arts était un grand leurre, qu'on leur faisait croire que le diplôme était important, que l'examen de morphologie était très important, et que tout le monde savait que c'était totalement faux. Mais c'était simplement pour leur faire croire qu'ils étaient des gens normaux, comme des vrais étudiants, avec des examens, des choses à apprendre, pour leur cacher la vérité qu'ils étaient totalement seuls et perdus, et qu'il n'y avait rien à apprendre et rien à enseigner, et que c'était trop dur pour des jeunes gens de leur dire ça. Et donc on leur faisait croire qu'il y avait des choses vraiment absolument obligatoires. Comment vous n'êtes pas venu hier à votre concours, comment, mais vous n'avez pas réussi à rendre votre feuille, et tout ça, on sait bien que ça ne sert à rien. Et donc, même à mon âge, je me donne des obligations que je sais totalement inutiles, simplement pour me rassurer, pour avoir l'air d'être quelqu'un qui a quelque chose à faire dans la vie.
Et d'être comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde.
Je suis à peu près comme tout le monde, mais à part que j'ai pas beaucoup d'activité, mais je suis retraité, donc c'est normal.
Mais c'était pareil quand vous l'étiez pas.
Oui.
Non. Mais c'est très difficile de ne rien faire.
C'est très douloureux de ne rien faire. C'est très très douloureux.
Ça veut dire laisser surgir quand même des tas de pensées qui vont s'entrechoquer.
Puisque vous parliez de comment on arrive à essayer de faire quelque chose. Très souvent, pendant des mois, on est devant une sorte de mur, et puis on ne comprend pas comment on peut ouvrir ce mur. Et puis en une seconde, l'œuvre est faite. Elle n'est pas commencée, mais elle est faite.
Comme ça.
Comme ça. Et après ça, elle est plus ou moins bien. Là, je fais un petit film pour le Centre Pompidou. Il n'est pas fait, rien n'est fait, mais je le vois. Alors, j'espère que ce qui va être fait va ressembler à ce que je vois, mais j'en suis pas tout à fait sûr.
Mais ça sera sur quoi ?
C'est des gens qui s'en vont.
Où ?
Et qui descendent un escalier roulant. Parce que là, on voit vraiment les gens disparaître. Donc, voilà, mais après ça, il y a toute une installation, etc., autour de ça. Mais disons, moi, je vois très, très bien l'œuvre, mais peut-être que l'œuvre ne sera pas possible à filmer, qu'elle ne sera pas bien. Mais disons, dès qu'on a... J'ai su ce que je veux faire, voilà.
Après, il suffit d'exécuter.
Après ça, il suffit d'exécuter, et parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, mais il suffit d'exécuter. Là, en ce moment, je tâche de réfléchir à ce spectacle que je fais en janvier. Je fais même pas un dessin. Dans ma tête, je me fais l'histoire. Je me dis, les gens vont entrer à gauche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faudrait avoir un grand rideau à droite? Et ça, je fais ça beaucoup, beaucoup de fois pour essayer de comprendre comment le visiteur va se promener à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va voir, comment il va ressentir quelque chose, quand est-ce que les musiciens peuvent intervenir. Donc ce genre de choses. Mais ça, c'est simplement en étant assis ou couché.
Mais vous n'avez pas peur d'oublier ce que vous avez imaginé? Vous ne prenez pas de notes? Vous ne mettez pas ça sur votre iPhone?
Non, parce
ou
que
sur votre ordinateur?
Non. Non, parce que
malheureusement... Tout est dans votre tête?
Oui, mais malheureusement, vous savez, j'ai très très peu d'idées, donc les peu d'idées que j'ai, je les conserve. Oui, c'est pas comme quelqu'un qui aurait des milliers d'idées et tout ça. Moi, dans une vie d'artiste comme la mienne, on n'a pas beaucoup. Il y a très peu de moments de création et il y a très peu d'idées. On a très peu d'idées. Moi, je pense qu'en gros, on répète toujours. Enfin, moi, je répète toujours la même chose, même dans les interviews d'ailleurs. On répète toujours la même chose. La seule chose, c'est que c'est un peu comme si on a fait un voyage. On fait un voyage en Italie. Alors, on peut parler de ce voyage par la nourriture, par les paysages, par les gens qu'on a rencontrés. Et évidemment, c'est toujours le même sujet, mais avec un âge différent, on voit ce sujet de manière différente. Donc, c'est toujours la même idée, mais cette idée va se modifier légèrement par rapport au temps qui passe et à l'âge qu'on a. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'idée de la mort, mais forcément plus jeune, c'est la mort des autres, et plus vieux, ça devient sa mort. Donc c'est en même temps la même chose et pas la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu vraiment trois périodes dans mon art. Une période du début qui était, disons, plus conceptuelle, où j'ai trouvé ce que j'avais à faire, et là, c'est quand je suis devenu artiste et adulte. Une partie, quand mes parents sont morts, où mon travail est devenu très visuel, plus visuel, et une partie aujourd'hui où c'est plutôt l'effacement et puis la possibilité de refaire les choses. Par exemple, c'est une chose qui m'a intéressé, c'est une pièce comme celle du Grand Palais, Personne, a été interprétée à Milan, à New York, au Japon et récemment à Shanghai.
Alors, il faut vous expliquer le dispositif, Christian. C'est une énorme grue.
C'est une très grande montagne qui a des tonnes et des tonnes de vêtements. Et il y a une grue avec un crochet, avec une pince, qui prend des vêtements, qui les amène très très haut et qui les rejette sur le tas. Et pour moi, c'est quelque chose qui est lié, dans mon idée, à la main de Dieu. C'est-à-dire que... pourquoi sur la vie, pourquoi sur la mort? C'est, comme je dis toujours à mon âge, on est sur une route avec des mines, et puis il y a ses amis qui sautent, et soit on continue à marcher, puis peut-être on saute le lendemain. Donc il y a une sorte de destinée, ou de chance, ou de je ne sais pas quoi, qui prend et qui rejette. Et donc le dispositif, donc cette montagne de vêtements qui fait, je ne sais pas, 8 mètres ou 10 mètres, qui est très très haute, et puis cette grue énorme et cette pince très méchante qui prend et qui rejette. Et donc cette œuvre a été donc interprétée dans beaucoup d'endroits. Naturellement, il n'y a eu jamais aucun transport. On l'a toujours refait à chaque fois. Et Pour moi, par exemple, elle était meilleure à Milan qu'à Paris. Et
pourquoi
on la modifie à chaque fois, et selon les espaces. Et à Milan, par hasard, je l'avais mieux senti. Bon, et l'espace, finalement, l'espace avait beaucoup de contraintes. Et le fait de ces contraintes m'avait permis quelque chose que je préférais. Et au Japon, je l'ai fait à l'extérieur, par exemple, par temps extrêmement chaud, par 40 degrés. Et elle était moins bien, parce que c'est une pièce plutôt de froid que de chaud. Mais j'avais intéressé de la jouer par temps très chaud. Et donc, c'est comme un peu une partition musicale qu'on peut jouer avec des orchestres un peu différents. Et donc, l'œuvre n'a aucune réalité. Alors, il y a une autre montagne qui se trouve dans l'exposition. C'est une montagne de vêtements noirs qui s'appelle le Terril et que j'ai vendue à un musée belge qui s'appelle le Grand Ornu. Naturellement, c'est une très grande montagne, ils l'ont détruite aussitôt. Et ils n'ont rien, mais ils ont le droit de la refaire un jour, ce qu'ils ne feront peut-être jamais. Mais là, par exemple, je l'ai empruntée, si je puis dire, pour l'exposition. Bon, on la refait entièrement à Paris, mais je mettrai des pots Grand Ornu. Ça appartient au Grand Ornu. Et donc, il y a cette notion d'œuvres éphémères, mais qui sont rejouables, qu'on peut rejouer.
Et donc ça, c'était... Chez vous, il n'y a pas d'œuvre unique. Tout est recommençable, tout est refabricable.
C'est des œuvres uniques, mais on les rejoue. Et on les rejoue, et pour le moment, je rejoue mon art. Et plus tard, j'espère que ce sera d'autres gens qui vont rejouer mon art, et qu'on dira une pièce de Boltanski interprétée par Madame Machin et ou Monsieur Truc, et on dira c'est bien interprété ou mal interprété.
C'est comme un musicien ou un chorégraphe.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a quelques photos, quelque chose qui reste, et après ça, c'est à chacun de réinterpréter ça.
Donc c'est pas la peine d'acheter certaines de vos œuvres.
Le Grand Ornu, par exemple, l'a acheté parce qu'ils ont un droit dessus. Ils ont une sorte de droit moral dessus. Donc si quelqu'un veut la refaire, en principe, ils doivent demander la permission au musée. Et puis, là, c'était toute une période des années précédentes. Et depuis quelques années, je m'intéresse à une chose qui est encore plus immatérielle. C'est-à-dire, j'essaie de construire des mythes ou de construire des légendes. Si vous prenez l'histoire dont on parlait, qui est de cet homme de Tasmanie, c'est avant tout un mythe. Il y a une réalité, on peut aller la voir, on peut aller dans cette caverne, voir ces milliers de DVD, mais l'histoire est plus importante que d'aller là-bas.
L'histoire des battements de cœur aussi.
Par exemple, l'histoire des battements de cœur, c'est la même chose. Dans l'île de Tsushima, dans la mer du Japon, on arrive aujourd'hui, je crois, à 80 000 battements de cœur qui viennent de pays très, très différents. Et c'est là encore, bon, c'est plus beau que la Tasmanie, donc on peut aller voir. Mais si vous allez écouter le cœur de votre grand-mère qui est morte et qui a été enregistrée, vous allez ressentir beaucoup plus son absence que sa présence. Et avant tout, si vous y allez, ce qui est important, c'est peut-être le chemin pour y aller, plutôt que d'y être. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les Japonais qui y vont beaucoup ne savent pas qui je suis, mais ils y vont comme un lieu de pèlerinage. Ils vont là pour écouter le cœur de quelqu'un comme un lieu de pèlerinage.
Wie kühler Morgentag.
Au fond, vous êtes une sorte de constructeur de rites.
J'essaie de créer des légendes, oui. Et là, j'ai fait en Patagonie une pièce sur les baleines. Donc j'ai construit des énormes trompes en métal. Et en travaillant avec des acousticiens, on a fait la parole des baleines. Et pour les Indiens de cette région, les baleines savent le début des temps. Et comme je me suis toujours posé cette question, que j'ai posée à beaucoup de gens qui m'ont jamais répondu, je la pose aux baleines, parce qu'il y a beaucoup de baleines à cet endroit. Et naturellement, les baleines ne m'ont rien appris. Mais les grandes trompes en métal, personne ne peut les avoir vues, ils vont s'écrouler, ils ont 3-4 mètres de haut, ils vont s'écrouler dans la mer dans pas longtemps. Mais peut-être qu'il restera, un fou est venu, il a posé des questions aux baleines. Et peut-être que des gens se souviendront de cette histoire. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les mythes ont plus de longévité que les œuvres. On parlait aussi des religions. Et par exemple, pour moi, les religions sont des mythes et les religions ont une force absolument extraordinaire. Et donc, de créer des mythes est une chose qui m'intéresse. Mais dans mon cas, il faut toujours que les mythes soient basés sur une réalité. C'est-à-dire que si je dis j'ai construit une maison sur la Lune, ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut que Alors il y a des choses, par exemple, je ne sais pas, qui sont peu connues. L'heure est dite sous la cathédrale de Salzbourg. Donc il y a une machine.
Pourquoi on vous a demandé ça? C'est les ecclésiastiques qui vous ont demandé de faire cette œuvre dans la cathédrale?
Non, c'était affreux même. J'avais l'impression d'être un vendeur de voitures d'occasion. Parce que pour les convaincre, c'était vraiment...
C'est vous qui avez choisi la cathédrale, oui, pour y installer votre ordre,
oui,
du temps.
Oui. Donc j'aurais expliqué
pourquoi.
Parce que pour moi, Dieu est le maître du temps. Parce que c'est comme ça que je l'ai vendu, si
oui,
je puis dire.
Mais pourquoi cette cathédrale?
Non, parce que j'avais une commande à Salzbourg à faire dans la ville. Et donc j'avais une connexion où je pouvais choisir vaguement un endroit. Et on m'avait montré cette crypte, et cette crypte m'intéressait. Bon, donc.
Mais vous êtes allé les voir en disant, je vais vous installer une horloge.
Oui, j'aurais expliqué à ma manière pourquoi je pensais que c'était nécessaire d'avoir le temps qui soit dit sous une église. Et j'avais l'impression d'être un peu devant l'Inquisition, ce qui me regardait avec un air absolument furieux. Et puis j'ai réussi à les convaincre. Et j'avais très peur qu'ils coupent le son très rapidement, mais non, j'y ai été par hasard cet été. Et le son est toujours là. Donc, on dit il est 4h20 en allemand, 4h20, 10 secondes, 4h20, 20 secondes. Ça déroule toute la journée. Et c'est vrai que pour moi, de savoir la possibilité d'arrêter le temps, ce temps qui avance constamment, est peut-être une des seules choses que les humains ne peuvent pas empêcher. C'est l'avancée vers la mort, la disparition. Et donc pour ça, c'est peut-être intéressant d'avoir ça pour montrer le pouvoir, je ne dis pas le pouvoir de Dieu parce que je ne suis pas croyant, mais le pouvoir qui nous dépasse.
Mais vous rendez compte que c'est vous qui devenez comme une sorte de Dieu?
Non, moi je ne peux
pas. En faisant
pas
accepter vos projets artistiques et en faisant entendre votre temps à l'intérieur d'un espace sacré.
Je fais entendre le temps, pas mon temps.
Mais il n'y en avait pas. Par définition, avant, il n'y avait pas le rappel du temps.
C'est dans une crypte où il faut vraiment vouloir y aller pour y aller. C'est dans la première église qui était là avant la cathédrale. Non, c'est surprenant qu'ils aient accepté, mais j'ai réussi apparemment à avoir à les convaincre. Donc, aujourd'hui, même à Paris, par exemple, personne ne le sait. Sous la Cité de la Musique, il y a ma œuvre la plus grande que j'ai faite maintenant il y a une trentaine d'années, qui doit faire, je pense, je sais pas, plus de 1000 mètres carrés ou un truc comme ça. Et là, l'histoire était surprenante. Porzampac, qui a construit l'Institut de la musique m'a demandé si je voulais faire ce qu'on appelle un 1%. C'est-à-dire quand on construit un truc, on vous donne à un artiste 1% du... Bon. Et puis j'y vais et je vois que tout est parfait, tout est très bien, et surtout que c'est vraiment un architecte très artiste. Je lui dis non, je peux pas intervenir, c'est trop bien, il n'y a rien à faire. Et puis juste en partant, je lui dis mais peut-être tu as des caves. Et il me dit oui, on a 10 000 mètres carrés de vide sanitaire. Je dis d'accord, je prends ça. Et avec certaines règles. D'une part, que pendant 10 ans, personne ne devait le savoir. Et après ça, qu'il y a deux clés, une chez moi que j'ai perdue et une clé chez le directeur. Et donc, si on veut y aller, il faut téléphoner, prendre un rendez-vous. Et il y a quelques personnes qui y ont été. Je pense qu'il y a 3-4 personnes par an qui y vont. Mais en tout cas, les étudiants ne sont pas au courant. C'est dans les sous-sols, il y a une porte en métal très lourde. Et la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 2-3 ans, ça commençait à se délabrer sérieusement, les ampoules sautaient les unes après les autres. Mais c'est là. Et là, il y a toutes les archives de l'ancien conservatoire qui sont enterrées. Il y a tout ce qui aurait dû être jeté, mais qui m'ont donné pour mettre là dans des cartons. Donc, là aussi, c'est pas très intéressant à y aller, mais pour moi, c'est important d'imaginer qu'il y a cette œuvre très grande qui est là. Donc, pour une œuvre qui, alors là, est plus que visible, au musée de la ville de Paris, ça c'était pour l'an 2000, parce que pour l'an 2000, je voulais dire le nom de tous les habitants de la Terre. Et naturellement, c'est très compliqué parce que, comme les gens ont l'habitude de naître et de mourir tellement rapidement, une fois qu'on a dit 5 noms, c'est déjà fini, c'est déjà dépassé. La liste n'est pas bonne. Et donc, j'ai eu l'idée d'essayer de collectionner tous les annuaires téléphoniques du monde, ce qui est maintenant une collection formidable parce qu'il n'y a plus d'annuaires téléphoniques. Donc, c'est vraiment des raretés. Et donc, il y a une salle avec, je ne sais pas, 3000 ou 4000 annuaires qui est là. Et il y a donc, dans cette petite salle, des milliers d'humains et d'abonnés du téléphone. Et si on y va, on peut prendre des annuaires et chercher, si on connaît quelqu'un à Conakry, où est la meilleure pizzeria d'Honolulu, ou c'est utilisable comme ça. Et donc, là encore, visuellement, c'est pas formidable, c'est comme une grande bibliothèque, mais l'idée de rassembler tellement de monde dans une petite salle m'intéressait. Je crois beaucoup à l'importance de nommer, et j'ai fait beaucoup de livres où c'est seulement des noms. Des noms d'habitants, par exemple, parce que je me suis beaucoup occupé des Suisses morts, donc des Suisses dans le canton du Valais, des Suisses morts dans le canton du Valais, ou des artistes ayant participé à la Biennale de Venise, ou des ouvriers dans une usine anglaise, enfin, simplement des listes de noms. Et donc, nommer me semble important, et donc tous ces annuaires avec tous ces noms me semblaient bien à conserver. Mais là aussi, c'est comme tout ça, c'est des petites paraboles.
Mais alors, à propos de nom, Christian Boltanski. Christian, c'est pas votre prénom. Vous appelez Liberté. Pourquoi l'avoir abandonné?
Alors, je m'appelle pas Liberté, je m'appelle Christian Liberté. Et les deux étant très difficiles à porter. Et Liberté encore plus que Christian. Mais, surtout aux États-Unis, Christian, c'est vraiment chrétien. Donc, c'est une chose très étrange pour moi, genre chrétien. Mais, je suis corse aussi, donc ça va. Ben. Je suis pour ma musique, j'ai toujours comme mon art être très corse. Mais j'ai jamais été en Corse. Mais c'est vrai que ma mère était corse, donc mon art est extrêmement corse. Avant tout, pour bien comprendre mon art, il faut étudier l'histoire de la Corse.
Donc il y a du secret partout.
Voilà. Et puis. J'ai un rapport un peu étrange à la vérité. Je ne suis pas tout à fait sûr que je crois à la vérité. Quand je faisais des pièces avec les Suisses morts, par exemple, j'avais une pièce qui s'appelait « Sans Suisses morts ». Il y avait 100 images de Suisses morts qui viennent tous du Valais. Et j'en mettais 99 morts et une photo d'un vivant. Et je me disais, ce titre est un mensonge, mais il suffit d'attendre quelques années pour que ce titre soit vrai. Comme quoi, le mensonge d'un jour peut être la vérité de demain. Et donc, c'est pour ça que... Et de toute façon, que l'art, c'est l'artifice. Donc, c'est faire ressentir la vérité plus que de dire la vérité.
Vous n'êtes pas pour autant un truqueur, ni un menteur.
Non, mais mes Suisses sont vraiment morts et ils sont vraiment Suisses. Mais mes bébés sont vraiment polonais et d'un jour. Mais ce qui compte, c'est le paradoxe de l'acteur. Ce qu'il faut, c'est faire ressentir. Et donc, si par hasard, j'avais pas de Suisse mort et que je prenne des Belges morts, ben, ce serait la même chose.
Et vous, vous croyez vraiment que vous êtes Christian Boltanski?
Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais que...
Vous faites semblant d'être Christian Boltanski.
Non, mais j'ai une activité. Je vais au marché. Enfin, la même activité que tout le monde. J'ai fait la cuisine. Voilà, j'aime bien... Il y a des choses que j'aime bien, comme les grands voyages en avion, parce qu'on a... Justement, on ne sait pas l'heure qu'il est. Ce qui est très beau dans les voyages très longs, quand je vais au Japon, c'est qu'on ne sait pas l'heure qu'il est. Et donc, on ne sait pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Ça dure 12 ou 13 heures. Et je bois un peu, donc je suis un peu somnolent. Et puis, je regarde des films idiots. Et on est vraiment... Et personne ne peut vous toucher. Personne ne peut vous annoncer une mauvaise nouvelle. Personne ne peut vous inquiéter. On est une sorte de capsule hors du monde. Et donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime tout ce qui... Enfin, je suis un petit peu anxieux. Et donc, dans un avion, je ne suis pas anxieux du tout parce que rien ne peut arriver. À part de tomber, mais ça n'arrive pas. Donc je sais que je suis tout ça. Et je suis encore des centaines de choses. Être quelqu'un, c'est... Et puis j'ai... Vous savez, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le début de ma vie, c'est travailler sur la petite mémoire. C'est-à-dire, ce que nous sommes, c'est plein de petites histoires, plein de choses que nous savons, plein de petits sentiments, de passer dans une rue, de se rappeler de quelque chose. Et ça, c'est ça qui nous forme, qui nous fait. Et chacun de nous a ça. Et donc, si vous dites oui, Christian Boltanski existe, parce qu'il y a tout ça derrière lui, il y a toutes ces... Je sais tellement de choses sur n'importe quelle rue de Paris. Mais je vais vous raconter l'histoire juive que je préfère. C'est deux juifs qui se sont connus à Varsovie avant-guerre, puis ils se retrouvent à New York. Et il y en a un qui dit à l'autre, « Mais dis-moi, depuis tout ce temps, dis-moi en un mot, comment a été ta vie ?» Et l'autre répond en un mot, « Bien. » Mais il dit, « Mais dis-moi un peu plus, dis-moi en deux mots. » En deux mots, pas bien. Et je pense que ça peut s'appliquer à toutes nos vies.
Thank you.
c'est avec Oblivions de The National que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Thomas Robin qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli, Louise Douillet qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et bien sûr à Lilian Allôme qui l'a réalisé. Et merci aussi à Christian Boltanski qui nous a généreusement reçus dans son atelier de Malakoff au moment même où il terminait ses derniers préparatifs de cette exposition qui s'intitule « Faire son temps » qui va commencer ce mercredi au Centre Pompidou et qui va durer jusqu'au 16 mars 2020. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.